Chers auditeurs, des poches sous les yeux s'arrondit début juin à Saint-Malo, au festival Étonnant Voyageurs, qui célèbre depuis 25 ans la littérature du voyage, et réunit chaque année ceux et celles qui nous font découvrir de leurs plus belles plumes les multiples voix et visages des mondes qui nous entourent. Profitons-en ici pour faire une parenthèse et remercier chaleureusement toute l'équipe du Point Presse, qui nous aura permis de goûter aux nombreuses et riches facettes du festival. Au programme de l'édition 2014, conférences, débats, expositions photo et BD, projections de films, cafés littéraires en présence des écrivains et réalisateurs invités, sans oublier la mer, le soleil éclatant, le cri des mouettes et bien sûr, le salon du livre. C'est là, sous les tentes et une chaleur avoisinant les 40 degrés, que Mathias Sénard nous a fait le plaisir de nous accorder un entretien lors d'une séance de signature. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, Mathias Sénard est notamment l'auteur du très beau roman « Parle-leur de bataille, de roi et d'éléphant » paru chez Actes Sud en 2010. Récompensé par plusieurs prix, ce roman, conte à la fois sombre et lumineux empreint de mystère et de senteurs orientales, nous entraîne sur les pas de Michel-Ange à Constantinople, ville dans laquelle se rend l'artiste suite à l'invitation du sultan pour y construire un pont. Rencontre donc avec l'écrivain et poète voyageur Mathias Sénard, qui lève pour nous quelques pans du voile de cette mystérieuse histoire dans le brouhaha du Salon du Livre du festival Étonnant Voyageur.
En fait, tout simplement, ça a commencé quand j'étais à la Villa Médicis et j'ai lu la biographie de Michel-Ange, c'est-à-dire les 40 pages que consacre à Michel-Ange Giorgio Vasari. Et j'étais très surpris parce que j'ai vu la mention de l'invitation de Michel-Ange par le sultan d'Istanbul. Mais Vasari ne précise pas pourquoi. Et tout ça, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Le sultan a invité Michel-Ange à Constantinople. On ignore ça. Et donc, je suis allé voir dans une biographie plus exhaustive, qui est celle de Ascanio Condivi, qui est un peu l'autobiographie de Michel-Ange, puisque on sait que c'est presque lui qui dicte cette biographie à son disciple Condivi. Et là, on en savait un peu plus. On savait que c'était pour construire un pont que Michel-Ange avait été invité. On savait comment l'invitation avait été transmise. Et c'est tout. Et à partir de là, je me suis dit, bon ben voilà, on va imaginer le reste.
Parce que vous précisez bien à la fin du livre qu'il y a des éléments, comme vous venez de dire, qui sont vraiment réels. Et puis après, vous dites, pour le reste, on n'en sait rien.
En fait, je dis que pour le reste, on n'en sait rien, mais c'est un peu un mensonge, puisqu'on sait qu'il n'y est vraisemblablement pas allé. C'est-à-dire que je triche un peu en laissant croire au lecteur, c'est un peu d'ailleurs le plaisir de la fiction, que ce voyage aurait été possible. Mais néanmoins, si Michel-Ange était allé en Turquie, on le saurait, pour beaucoup de raisons. Donc, en fait, il y a très 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 peu de chances qu'il y soit allé.
Et alors, ce moment où on découvre le personnage de Michel-Ange, donc c'est quand même un personnage un peu bourru, obsédé par le travail, sale, puant. Est-ce que tout ça, c'est aussi fictionné, réel ?
Je sais pas.
En fait, on a beaucoup de sources pour le, disons, le caractère ou la personnalité de Michel-Ange. D'abord, ce qu'il nous livre lui-même, et ça, c'est là qu'on voit son énorme force de travail, puisqu'on voit dans sa biographie qu'en fait, il passait son temps à travailler, il ne faisait que ça. Matin au soir, sur beaucoup de projets, on voit dans ses lettres à quel point il s'efforce pour faire les choses jour et nuit, à quel point il est pauvre dans sa jeunesse, à quel point il a envie d'arriver, de parvenir justement à avoir de l'argent et du pouvoir. Ça, c'est lui-même qui nous livre dans ses lettres, principalement, dans sa correspondance qui nous est toute parvenue. Dans les lettres qu'il écrit à ses frères, à ses parents, on voit vraiment l'homme Michel-Ange, quoi. Et puis, il y a sa poésie aussi qui nous donne un peu aussi un autre aspect. Donc, j'ai surtout travaillé avec ça. Et ensuite, une autre source très importante, c'est ce qu'ils disent de lui, ses contemporains. Et là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui sont les amis de Michel-Ange et qui en disent le plus grand bien, et ceux qui sont ses ennemis qui en disent le plus grand mal, notamment que personne voulait travailler avec lui parce qu'il puait trop, que c'était un génie tyrannique qui exploitait ses assistants. Bref, on a aussi un autre son de cloche. Et donc moi, j'ai préféré rester un peu dans l'équilibre, un peu dans l'entre-deux de toutes ces versions, sans prendre de décision qui ne soit pas attestée dans les sources, voilà, tout simplement. C'est-à-dire, si l'histoire, si l'historien n'a pas tranché, c'est pas moi qui vais trancher. Et donc je laisse certaines choses dans le flou pour lesquelles on n'a pas de solution réellement décidée. Quoi. Voilà, c'est comme ça que j'ai travaillé, disons, l'aspect le plus général de sa personnalité.
Et donc vous disiez le voyage de Michel-Ange, enfin, que vous décrivez à Constantinople, il y a quelque chose de fascinant. Mmh. Et cette fascination ici elle s'exprime par votre style poétique qui nous fait un peu goûter les splendeurs et le parfum de l'Orient. Bah vous-même, vous êtes professeur d'arabe à Barcelone. Est-ce qu'il y a une part de vous-même dans ce roman? Et vous, quel est votre rapport avec l'Orient?
Évidemment, ma relation avec l'Orient est différente de celle de Michel-Ange, puisque on ne vit pas dans la même époque. Et les informations préalables qu'on peut avoir sur Istanbul ou sur les villes de l'Est de la Méditerranée sont bien différentes de nos jours. C'est-à-dire qu'on en a une image beaucoup plus précise que celle que pouvait avoir Michel-Ange à l'époque, au moment où il débarque, où je le fais débarquer sur la Corne d'Or. Donc ça a évidemment bien changé. Mais c'est vrai que moi-même, je me souviens encore de la première fois où je suis arrivé à Istanbul. J'avais 19 ans, je me rendais en Iran. Et la découverte de cette ville a supposé un choc absolument extraordinaire. Un choc esthétique d'abord, de la beauté du site et de cette ville avec ses mosquées incroyables. Et ensuite, un choc peut-être culturel de découvrir la réalité quotidienne de la différence avec la vie que je pouvais avoir en France. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui marque. Et après, on a beau développer un rapport beaucoup plus, disons, proche, de proximité avec le monde arabe ou le monde turc ou l'Iran, finalement on n'oublie pas quand même cette première impression et la force qu'a eu cette première rencontre.
Et vous avez aujourd'hui environ 40 ans, vous dites que vous êtes parti à 19 ans à Istanbul pour l'Iran. Il est né d'où cet appel pour l'Orient?
En fait, moi, c'est un peu un hasard. Bon, j'ai toujours, dans mon adolescence, un peu comme tout le monde, j'ai toujours voulu voyager. Mais je ne savais pas précisément ni où ni comment. Et en fait, j'ai fait des études d'histoire de l'art. Et c'est à partir de là que je me suis intéressé pour les arts de l'islam. Et donc, que je suis passé aux langues orientales pour prendre des cours d'arabe et de persan. Et très vite, la langue en elle-même, les langues en elles-mêmes m'ont fasciné. Et j'ai rapidement abandonné l'histoire de l'art pour me consacrer plus qu'à la langue arabe et à la langue persane. Et donc c'est comme ça, un peu par hasard, même si je ne crois pas qu'il y ait vraiment de hasard en la matière, que je suis arrivé à me spécialiser un peu dans l'étude du monde arabo-persan. Mais si j'y repense, c'est vrai que mon enfance et mon adolescence gardent aussi le souvenir de lecture. Et notamment, un des premiers livres que je me souviens avoir pris à la bibliothèque, c'était une version gigantesque et dessinée, illustrée des Mille et une nuits. Donc, très certainement, j'avais rien dû lire du tout, juste regarder les images. Et encore. Mais je me souviens que je l'avais pris parce que c'était le plus gros livre de toute la bibliothèque. Et j'ai comme ça quelques souvenirs d'une relation un peu, disons, distante, mais néanmoins réelle à l'Orient, mais qui pourrait être celle de n'importe qui. Et c'est seulement par la suite qu'évidemment cela devient une réelle passion qui se traduit par des voyages nombreux. et Forlon en Orient.
Dans votre roman, je trouve qu'il y a ce côté conte oriental. Il y a vraiment cette atmosphère qu'on trouve tout au long du roman, puisqu'en fait, on découvre toute la ville à travers les yeux de Michel-Ange. Est-ce que ça, c'est un choix délibéré de mettre le lecteur à la même place ou juste derrière lui comme une caméra un peu?
Oui, je ne sais pas si c'est tellement une caméra, mais mon idée, c'était plutôt de faire un livre qui serait un peu comme Michel-Ange dessine, c'est-à-dire une suite de croquis ce serait donc chapitre après chapitre, un peu comme on passe des pages, des dessins, dessin après dessin, des chapitres très courts qui font une image comme ça, une suite d'images. Et c'est vrai que le problème de la question de Michel-Ange, c'est qu'on a envie un peu de le voir presque en caméra subjective, de ne pas le voir, et qu'il n'ait pas de visage réel, qu'il ait un corps qui soit là, mais qu'on ne lui donne pas un visage qui ne serait pas le sien, du coup. Et c'est sûr que si je devais filmer peut-être ce livre, ce qui évidemment ne se produira jamais, mais parce que je ne suis pas cinéaste, peut-être que je filmerais vraiment en caméra subjective, où on ne verrait pas le visage de Michel-Ange.
Oui. Parce que c'est ça qui est beau dans le bouquin, c'est qu'on découvre la ville à travers les yeux du personnage, c'est un monde de perception. Et c'est ce qui marche très bien. Vous n'avez pas de description de la ville à la Victor Hugo, je dis ça, vous voyez ça, tout, et ça marche vraiment.
Non, c'est vrai que c'est un voyage sensible. D'abord très précis, parce que j'ai beaucoup travaillé ça pour que la concision des termes et la précision des termes permettent une description assez juste de ce qu'était le monde à l'époque. Par exemple, le livre, enfin la partie istanbouliote, disons, du livre, s'ouvre par une série d'objets et de produits qui sont vraiment exactement tout ce qu'on importait d'Italie et précisément de Toscane à cette époque-là. Voilà. Et donc voilà, j'ai vraiment cherché à recréer ce monde par ses aspects les plus sensibles, c'est-à-dire les matières, les parfums, les bruits, les goûts, ce qu'on mangeait à l'époque. Donc c'est par ces sens que Michel-Ange finalement apparaît et même nous fait voir aussi le monde qui l'entoure.
Et ce monde de la perception, il se retrouve aussi dans le style, dans les différentes formes narratives et les différentes voies narratives du livre. On a à la fois les lettres, ce que vit Michel-Ange, et puis il y a ces monologues de cette femme arabo-andalouse, voilà, qui sont magnifiques, qui donnent d'ailleurs le titre au bouquin. Est-ce que vous pouvez un peu développer un peu cet aspect-là du livre? Pourquoi choisir cette voie intérieure?
Disons qu'en fait, le livre est construit un peu sur des triangles. Il y a trois voies dans le livre. Il y a d'abord cette femme qui parle dans la nuit, ou cet homme qui parle dans la nuit, on ne sait pas. Michel-Ange lui-même, par ses lettres. Michel-Ange qui parle à la première personne dans les quelques lettres que je reprends dans le livre. Et moi. Donc ça y est, voilà, il y a trois voies. Il y a trois personnages aussi, qui sont donc Michel-Ange, Messi, le poète turc, et cette danseuse ou ce danseur. Trois personnages aussi, trois religions du livre. Michel-Ange, le chrétien, Messie, le musulman, cette jeune femme est juive, et ainsi de suite. Le livre se concentre comme ça, par série de trois choses et de triangles. Et tout de suite, j'ai senti qu'il me fallait cette voix, que ce côté mystérieux, ce côté nocturne un peu du livre devait être assumé par cette voix qui parlait dans la vie. Et ça, voilà, l'idée m'en est venue pratiquement dès le départ. Après, sa personnalité, c'est-à-dire qui elle est réellement, comment elle est là, pourquoi, bien sûr, j'y ai pensé plus tard. Mais en tout cas, la présence de cette voix, qui était un contrepoint pour moi très important à l'autre voix narrative du livre. C'est-à-dire que le livre commence par cette phrase « La nuit ne communique pas avec le jour, elle y brûle ». Déjà ce balancement est déjà là, quoi. Jour, nuit, voix de cette narratrice et ensuite la voix de Michel-Ange lui-même, enfin, du narrateur qui est moi. Voilà, c'est un peu tout de suite cette dualité est déjà là, quoi. Et puis il y a quelque chose de très j'allais dire presque primitif là-dedans, dans ces voix qui nous parlent dans la nuit, comme Scheherazade elle-même parlait dans la nuit pour se préserver de la violence et de la mort. Donc. Et c'est un peu ce que fait cette voix, c'est qu'elle cherche à reculer le moment où la nuit va brûler dans le jour.
Vous savez que les chats ont eu 9 vies. Avec tout ce que vous avez fait, apparemment, moi, j'avais envie de vous demander, vous êtes dans quelle vie à peu près en ce moment?
Toujours la première, mais il m'en reste beaucoup. Ah, bah, merci. J'en prie, merci.